donc lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 21. C'est à la page 1271 des Bibles bleues qui sont devant vous. 1271. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Mercredi dernier, on a appris le décès de Shimon Peres, trois fois Premier ministre en Israël, et aussi récompensé par le prix Nobel de la paix en 1994. Il était récompensé pour ses efforts dans les accords de paix, les accords d'Oslo, et plusieurs entre Palestiniens et Israéliens. Et plusieurs personnes ont rendu hommage à Shimon Peres. Barack Obama, vous l'avez peut-être entendu dans les médias, a dit la chose suivante: « Il y a peu de personnes avec lesquelles nous partageons ce monde et qui changent le cours de l'histoire humaine. » Mon ami Shimon était une de ces personnes. Bill Clinton, qui a lui-même participé à ces accords, enfin, qui les a entourés, a supervisé la signature, a dit de lui que c'était un génie au grand cœur, un fervent avocat de la paix, de la réconciliation et d'un avenir dans lequel tous les enfants d'Abraham construiraient un meilleur lendemain. Et dans les médias français, on entendait ce même genre d'éloge de la part des politiques. Mais on a aussi entendu de la part de spécialistes en géopolitique un autre constat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ces accords aller jusqu'au bout. Et si c'est vrai qu'il a été un homme de paix, il n'a jamais pu aller au bout de son projet, de ce qu'il souhaitait. Cette autonomie des territoires palestiniens, elle n'a jamais pu se vivre jusqu'au bout. Certains estiment donc qu'il a changé le cours de l'histoire, on l'entend dans ces citations, mais en même temps, on reconnaît tous, et c'est admis, qu'il n'a pas pu aller aussi loin qu'il voulait aller. Dimanche dernier, on a parlé des promesses, de ce que Jésus garantit. L'apôtre Paul a parlé de ce que Jésus peut garantir, un avenir glorieux pour ceux qui placent leur confiance en lui. Mais on pourrait un peu se demander, et c'est probablement ce que l'apôtre Paul a à l'esprit, est-ce qu'on peut vraiment croire en ce futur glorieux? Est-ce que cette paix avec Dieu, c'est réaliste? C'est vraiment certain? Est-ce que, c'est comme il le dit au verset 2, est-ce qu'on va vraiment avoir part à la gloire de Dieu? Ça paraît presque trop glorieux, justement. Et au fond, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir autant de confiance dans l'impact de la mort d'un homme il y a 2000 ans? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'impact de sa mort, de cet homme mort il y a 2000 ans? Et je vous suggère le plan suivant pour réfléchir à ce texte. En Adam, entraîné dans le règne de la mort, en Jésus appelé par la grâce au règne de la vie. Ce sont les deux parties. Alors, je ne sais pas quelles ont été vos impressions en écoutant le texte. Quelles ont été vos impressions? Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé dans mon esprit quand moi, je l'ai lu et relu et relu. C'est qu'à la fin, j'arrivais toujours avec un grand blanc, sentiment de vide, les neurones en surchauffe, et le sentiment qu'il y a probablement des gens qui comprennent la logique ici, mais moi, j'ai de la peine. Alors, j'ai l'impression que vous avez très bien compris. Je vois sur vos visages, aucun souci. Moi, j'ai eu de la peine avec la logique. Et c'est vrai qu'on a au minimum, accordez-moi ça, du condensé. Et au-delà de la complexité, de l'argumentation dense, on pourrait avoir le sentiment aussi qu'on rentre dans les profondeurs. Alors qu'on parle de péché, de règne de la mort, ça peut sembler assez triste, assez sombre. Mais s'il parle effectivement de la misère humaine, du mal et de ses conséquences dans ce texte, l'apôtre Paul veut nous emmener aux hauteurs. Et regardez juste là où il veut nous mener, verset 20-21, « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça devrait nous encourager dès le départ que si on va parler effectivement de la misère humaine, du mal qui nous concerne tous, le but c'est de faire ressortir le triomphe de Jésus-Christ, la grâce qui s'est multipliée. De temps à autre, on entend les critiques de célébrités par rapport aux politiques. Alors cette semaine, c'était l'occasion pour Michel Sardou de se prononcer sur les politiques. Et il dit, quelques extraits, la chose suivante, « Je me suis fixé comme ligne de barrer d'une croix rouge le nom de tous ceux qui promettront des trucs comme une baisse du chômage ou des impôts, le sauvetage de telle ou telle entreprise. J'écoute de moins en moins les politiques, les hommes politiques, et je ne les crois plus. » Autrement dit, quand on entend leurs promesses, quand on voit ensuite la réalité, on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut plus leur faire confiance. Et j'imagine que certains d'entre nous, on va partager un certain scepticisme avec lui. Et ici, la question, elle se pose aussi. Quand on entend l'apôtre Paul nous affirmer qu'il y a un avenir glorieux, qu'il y a un mal éradiqué, une vie éternelle, on peut peut-être avoir le sentiment qu'il en fait trop, il promet trop. Mais déjà, on doit commencer par réaliser qu'il prend le problème humain au sérieux. Il n'est pas en train de le prendre à la légère. Il n'y a pas ce décalage avec la réalité dans la nature humaine. Ça, on va en parler. Et en même temps, il a confiance et il veut nous donner les raisons d'avoir cette confiance dans le règne de grâce qui mène à la vie éternelle. Et une des choses qu'il utilise pour nous faire voir cela, c'est la comparaison. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre d'objets, de personnes, simplement par l'observation, mais on est assez limité. Par contre, avec la comparaison, on peut aller un peu plus loin. Pensez par exemple à un produit, vous devez vous acheter un téléphone portable. Vous pourriez entrer dans le magasin et vous prendre le premier portable que vous voyez et étudier la fiche descriptive, regarder tous les éléments qui vous sont dits au sujet de ce portable. Mais un pas plus loin, et d'ailleurs si vous le faites sur Internet, vous avez ces comparatifs qui vous sont proposés, c'est de justement comparer avec d'autres produits, son autonomie, sa capacité, ceci et cela. Et avec une comparaison, on en découvre un peu plus sur tel appareil. On est un peu mieux en mesure de décider, de choisir ce qu'on va acheter. Ici, pour mettre en évidence la beauté de la solution qui est proposée, l'apôtre Paul nous place aussi dans la comparaison. Fait de contrastes et de similitudes, on va aller plus loin pour essayer de comprendre la merveille de cette solution. On peut noter ici que l'apôtre Paul va parler de deux personnages historiques, Adam et Jésus. Quant à Adam, il y en a certains qui affirment que ça va à l'encontre des découvertes de la science, qu'Adam ne peut pas être notre ancêtre commun. Mais tout en tenant compte des découvertes de la science, il y a des solutions qui nous permettent, je le crois, de pouvoir affirmer qu'il y a bel et bien un ancêtre commun. Celle d'Adam l'existence d'Adam, comme celle de Jésus, qui parfois, elle aussi, est questionnée. On prétend parfois que Jésus n'a jamais existé. Dans la perspective de l'apôtre Paul, et c'est la nôtre aussi ce soir, c'est qu'ils ont bien existé, que ce sont des personnages historiques. On va essayer donc de prendre une comparaison, comme l'apôtre Paul veut l'utiliser pour faire ressortir certaines choses. Et on commence avec « en Adam, entraîné dans le règne de la mort », dans les versets 12 à 14. Il y a comme un lien avec ce qui précède, dans les premiers mots « c'est pourquoi ». Et on va entendre une suite logique. Vous lisez au verset 12, et vous pouvez soit suivre dans les Bibles ou regarder à l'écran. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché dont il est question ici renvoie au début de la Genèse, où il est question du péché originel. Une question de ce... dans ce passage de la Genèse, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est important de réaliser à quoi on a affaire. Il ne s'agit pas simplement d'un dessert que Adam et Ève auraient choisi et qui n'était pas dans la liste des desserts à prendre. Ça serait complètement manquer le symbole de cet arbre, ce qu'il représente symboliquement. Prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise le fait de prendre son autonomie par rapport à Dieu, de vouloir définir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, définir soi-même le bien et le mal, ce qui jusque-là a été défini par Dieu. Et si on veut une brève illustration de ça, de ce à quoi ça peut ressembler, on prend simplement la situation en Syrie. Vous prenez toutes les parties, on est frappé par toutes les parties qui sont présentes dans ce conflit. Mais chacun d'entre nous, chacun d'entre eux dans ce conflit a la certitude qu'il a choisi la bonne voie, qu'il combat la bonne cause, qu'il combat pour de justes raisons et ils agissent en fonction de leur jugement. Le péché dont il est question ici, c'est précisément d'avoir cette certitude de pouvoir choisir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, définir soi-même le bien, le mal. Et le règne de la mort dit le pouvoir, le règne, dit le pouvoir exercé par ce péché, par cette mort sur nous. L'affirmation de l'apôtre Paul, c'est que le péché a entraîné la mort, et par la mort, on peut comprendre là la mort physique, mais aussi spirituelle. En gros, les conséquences de vouloir être indépendant par rapport à Dieu. Et ce qui ressort de cela, c'est que la mort a atteint tous les humains. Et vous remarquez peut-être une sorte de symétrie à... Il y a une solidarité qui se vit avec Adam, dans ce verset 12, et qui décrit une symétrie. Adam commet une faute qui entraîne la mort. La mort, elle s'étend à tous les humains parce que tous ont péché. Comme un lien de solidarité entre lui et nous, il a commis une faute, la mort est survenue. Nous sommes tous sous cette mort. Et nous péchons à notre tour. Alors peut-être ça paraît difficile à accepter dans une société individualiste comme la nôtre. Vous pourriez peut-être vous dire, mais quoi ? Moi, je devrais subir les conséquences de la faute d'un autre ? Ça peut paraître choquant, repoussant comme idée. Elle doit en tout cas pas nous faire oublier qu'il y a en même temps une responsabilité qui est engagée. L'apôtre Paul, il ne faut pas l'imaginer comme quelqu'un qui peut dire une chose à un moment donné au début de sa lettre et qui dit ensuite complètement autre chose. Il y a bel et bien une responsabilité engagée de la part de chacun d'entre nous. Si au début de la lettre, il dit que tous nous sommes coupables, tous nous sommes inexcusables, c'est que d'une certaine façon, il y a une responsabilité engagée de notre part aussi. Mais quand il s'agit d'expliquer la cause première, le fait que l'humanité dans son ensemble commet le mal, il renvoie à cette faute d'Adam. Alors peut-être là encore vous dites, mais quoi ? Pourquoi ? Pourquoi on serait en train de vivre ces conséquences-là ? On doit de nouveau garder la symétrie en tête. Si lui a commis une faute qui entraîne la mort, cette mort elle s'étend à nous, nous aussi on l'a suivi. Il y a cette solidarité, on n'aurait pas fait mieux que lui en d'autres termes. On l'aurait suivi dans ce désir d'indépendance par rapport à Dieu. Mais peut-être pour prendre quelques exemples de ce à quoi ça peut ressembler aujourd'hui. Prenez dans le domaine civil. On a parlé de conflit là, mais quand le président de la République déclare la guerre à une nation, ou à l'État islamique, c'est la nation entière qui est engagée. Qu'on le veuille ou non, qu'on se dise « mais non, mais moi je n'ai pas pris cette décision-là ». Mais si le président de la République décide que nous sommes en conflit avec tel pays, nous le sommes tous en conflit, si nous sommes citoyens de ce pays. Un autre exemple, ça sera dans le domaine sportif. On a vécu deux compétitions ces derniers temps avec le championnat d'Europe de foot et puis les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que vous avez crié quand l'équipe de France a marqué? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, donc vous n'avez peut-être pas crié. Mais peut-être vous avez esquissé un léger sourire ou une forme d'approbation quand un athlète avait les larmes aux yeux en battant un record aux Jeux Olympiques. Vous avez peut-être été un tout petit peu touché, mais parce qu'il y a une certaine solidarité. Ils ont joué, ils ont fait une compétition en tant que représentants pour nous. Il y a un lien de solidarité. Et ce lien de solidarité, il se vérifie aussi dans l'expérience humaine. On pourrait prétendre avec Rousseau que l'homme est fondamentalement bon et que c'est son environnement qu'il corrompt. Mais est-ce que, si c'est le cas, comment se fait-il qu'on ait tant de peine, qu'on doive donner tellement d'énergie à enseigner à un enfant à avoir du respect vis-à-vis des autres? Comment se fait qu'on a autant de peine à enseigner une éthique, à être respectueux des autres, à des enfants? Et à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas déployer ces mêmes efforts pour enseigner à un enfant comment mentir? T'imagines, mon chéri, aujourd'hui je vais t'apprendre à mentir. Alors, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple, on va prendre du temps, il va falloir beaucoup d'exercices, mais je vais t'apprendre à mentir. Vous imaginez, on devrait déployer les mêmes efforts pour apprendre à quelqu'un à mentir? Non, ce n'est pas du tout le cas. L'expérience humaine montre qu'il y a universellement et en grandissant, un enfant aura naturellement tendance à vouloir franchir certaines limites. Et le fait qu'on est tous entraînés en cela peut être difficile à saisir, mais l'expérience nous le montre. Vous voyez comment Blaise Pascal l'a écrit. Le péché originel est une folie devant les hommes, mais on le donne pour tel. On ne doit donc pas reprocher la difficulté de comprendre cette doctrine, puisque cette doctrine est folie pour les hommes et que la raison y puisse pour les hommes et que la raison y puisse atteindre. Mais cette folie est plus sage que toute la sagesse des hommes, car sans cela, que dira-t-on quel homme? Tout son état dépend de ce point imperceptible. Ça peut paraître une folie de penser que tous nous sommes corrompus par le mal à cause de la faute d'un seul. Mais la réalité doit nous montrer que c'est le cas, qu'on a ce point commun en chacun d'entre nous. Et dans ce verset 12, commence l'apôtre Paul par comparer Adam et Jésus. Mais c'est comme s'il réalisait la nécessité de faire une parenthèse pour nous expliquer la réalité de ce mal, d'entrer un peu plus dans le détail pour clarifier certaines choses. C'est moins visible dans notre version ici, mais le verset 12, c'est comme s'il s'interrompait et qu'il entrait dans une parenthèse dans les versets 13 à 17. Le fil de sa pensée commençait au verset 12, elle va en fait se poursuivre au verset 18. C'est là que la comparaison va se faire dans toute sa force. Mais il veut là, l'espace de cette parenthèse, nous faire entrer dans la réalité du mal pour nous aider à comprendre, pour éviter justement, malgré l'impression d'avoir trop de condensés. Parce que l'objectif qu'il a au départ, c'est de faire ressortir le triomphe de Jésus-Christ. Si c'est ça l'objectif, alors c'est ça qu'on va garder en tête et on ne va pas trop prendre de temps sur cette parenthèse. On va l'évoquer quand même, mais rapidement. Alors rapidement, versets 13 à 14, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit simplement que la mort était présente avant le don de la loi. La loi, c'est ce qui nous permet à chacun de savoir quand on franchit, quand on commet une transgression. C'est par la loi qui est établie qu'on sait qu'on franchit une limite et qu'on est coupable, responsable devant la loi. Et c'est pareil avec la loi de Moïse. Mais ce qu'il veut mettre en évidence, c'est que la mort était déjà présente avant. Et on l'a déjà entendu nous dire au chapitre 2, que même sans la loi, même si on n'avait pas la loi, on aurait chacun d'entre nous une conscience du mal. On aurait chacun, à un moment ou à un autre, sans même la loi de Moïse, le sentiment de franchir certaines limites en nous-mêmes. Et donc, nous sommes déjà coupables, même sans la loi, avant qu'elle intervienne. Au verset 14, alors qu'il fait allusion à la ressemblance entre Adam et Jésus, là encore, il s'interrompt, comme si ça lui paraissait trop difficile de comparer Adam et Jésus. Les comparer, d'accord, mais les mettre au même niveau, ça lui paraît trop difficile. Et il s'interrompt là, comme pour mettre l'accent sur des différences avant de parler de similitudes. Il va parler d'abord des différences avant les similitudes. Et avant de passer au deuxième point, ça vaut la peine de juste de réfléchir quelques instants à ce qu'on peut faire ressortir là. Si pour vous c'est une mauvaise nouvelle de penser que tous nous sommes entraînés dans le mal, la faute et sous ce règne de mort à cause d'un homme, si ça vous paraît être une mauvaise nouvelle, quoi ? À cause d'un homme, du premier homme, on est tous entraînés dans ce mal ? En même temps, ça devrait nous donner un espoir. Parce que si lui nous a représentés dans la faute, c'est que pour nous représenter devant la justice de Dieu, pour nous permettre d'être déclarés justes devant la justice de Dieu, on ne va pas devoir chacun se représenter. On ne va pas devoir chacun essayer de rattraper nos erreurs. On va pouvoir là encore être au bénéfice d'un représentant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, on devrait réaliser qu'on commet des erreurs, ou on a commis des erreurs vis-à-vis de nous, qui sont irréparables. Mais de la même façon qu'on a été représenté dans la faute par un Adam, on pourra être représenté, comme on va le voir, par quelqu'un d'autre, dans la justice. On passe ensuite à cette comparaison et à Jésus, en Jésus appelé par la grâce au règne de la vie. Et avant de, comme on l'a dit, de parler des comparaisons, des similitudes, il veut entrer dans les différences. Et la première différence, c'est dans la nature de leur acte. Entre Adam et Jésus, il y a une différence de nature. La faute d'un côté, le don gratuit de l'autre. Et ça, c'est déjà un contraste. Il y a un peu moins d'un an, on vivait des circonstances très troubles. Il y avait les attentats du 13 novembre. Et au Bataclan en particulier, on avait des terroristes qui tiraient sur toute une foule. 90 personnes ont perdu la vie. Et pendant cette fusillade, une femme va se suspendre à une fenêtre, une femme enceinte. Et elle va, vous avez peut-être vu cette vidéo, elle va supplier les personnes qui sont en bas de la réceptionner si elle devait sauter, parce qu'elle est à bout de force. Personne en bas ne peut le faire, c'est le chaos. Et c'est un certain Sébastien qui est lui sur une bouche d'aération qui va descendre et la faire rentrer. Mais par la suite, Sébastien, lui, va être face aux terroristes. Alors il va être épargné, mais il a risqué sa vie pour sauver la vie d'une autre personne. Quel contraste entre ceux qui tirent pour provoquer la mort et quelqu'un qui risque sa vie pour sauver une autre personne. Ben, c'est un peu ce contraste qu'on doit voir ici avec Jésus et Adam. L'écart est creusé entre les deux. Adam, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Par désir de s'élever personnellement à la place de Dieu, eh ben, il est prêt à la transgression. Pour s'élever à la place de Dieu, il est prêt à la transgression. Par compassion, Jésus, lui, il est prêt à s'abaisser et sacrifier sa vie, donner sa vie. Jésus est différent d'Adam dans la nature de leur action. Chacun sont différents dans la nature de leur action. Mais c'est aussi la force de leur action. Verset 15, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a d'un côté une puissance destructrice dont on voit les effets encore aujourd'hui. Mais ce qu'il veut dire par ce contraste, c'est que la grâce est encore plus abondante. Elle a cette puissance de restauration sur beaucoup. Et vous avez remarqué le beaucoup d'un côté comme de l'autre. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que ça signifie en fait qu'on est en train de parler d'un salut universel? C'est-à-dire qu'on est tous coupables, d'accord, mais on est tous sauvés au final par Jésus. Est-ce que si l'apôtre Paul est en train de dire, on est tous tombés, mais on sera tous sauvés à la fin. On ira tous au paradis. Est-ce que c'est ça qu'il veut affirmer ici? Bah, d'une part, ça ne colle pas avec ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans cette lettre au sujet de la responsabilité de chaque personne qui ne va pas placer sa confiance en Jésus. Et même au verset 17, il va parler d'un positionnement, il va parler de ceux qui reçoivent la grâce. Il y a un positionnement qui est nécessaire de la part de chacun. Ce n'est donc pas une équivalence complète entre toute l'humanité qui est perdue et toute l'humanité qui sera sauvée. Il va falloir se positionner. L'autre différence dans laquelle l'apôtre Paul entre au verset 16, c'est une différence dans les conséquences, dans les effets. L'action d'Adam, elle entraîne la condamnation. L'action de Jésus, elle entraîne l'acquittement. La première, elle entraîne la sentence. La deuxième, elle entraîne la suppression de cette sentence. Les effets sont inverses, complètement inverses. Mais il va encore aller plus loin au verset 17 avec une différence encore plus grande, alors qu'il est question de la mort qui a régné. Et là, notre condition, c'est la condition d'esclave, d'être soumis à un règne implacable, celui du péché et de la mort. Il va parler ensuite de ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice par Jésus et qui régneront. Si Adam nous rend esclaves, nous enferme dans un cercle vicieux, Jésus, lui, il nous appelle par sa grâce à régner avec lui. On ne peut pas avoir un extrême plus grand. Et ça pose la question, à quelle famille est-ce que vous voulez appartenir? À qui est-ce que vous allez appartenir? Qui sera celui qui vous représente? Sous la condamnation ou justifié? Sous le règne de la mort, c'est-à-dire spirituellement mort, mort une vie avec Dieu, mort et sans recours devant la mort physique, où est-ce qu'on va être au bénéfice de sa grâce et régner avec lui par le don qu'il nous fait de la vie éternelle? La conclusion à laquelle l'apôtre Paul veut amener, et c'est là où il va mettre la comparaison dans toute sa force, c'est au verset 18. Ainsi donc, et là les parallèles avec Adam et Jésus doivent nous montrer que si le problème de fond est venu d'un seul, la solution, elle sera amplement à la mesure de ce qui s'est passé, et même bien au-delà. Et ça, ça devrait susciter l'émerveillement. SRAS, c'est le nom pour syndrome respiratoire aigu sévère, maladie respiratoire un peu comme une pneumonie. Il y a une épidémie de SRAS qui a débuté en novembre 2002 en Chine, pour la première fois, et elle a provoqué une réaction en chaîne. Ce sont 30 pays qui ont été touchés. Et en août 2003, on recensait 900 décès. Donc, ça a provoqué la mort. Premier porteur du virus venait, semble-t-il, de Chine. Et cette épidémie, elle s'est transmise au Vietnam. Le SRAS est entré au Vietnam par un seul porteur, un certain monsieur Chen. Il a contracté la maladie et donc il a été transporté à l'hôpital de Hanoï, à l'hôpital français de Hanoï. Le personnel ne savait pas à quoi ils avaient affaire, donc ils ont fait appel à l'OMS. Et c'est un certain docteur Urbani qui a pris le coup de fil et qui s'est rendu sur place, qui assez rapidement a réalisé la gravité de ce virus. Et il a demandé à tout le personnel médical de ne plus sortir, être en quarantaine, avec les conséquences que ça a. Il voit le danger que ça représente, et il les convainc de rester là. Il va y avoir effectivement des morts, 5 membres du personnel, au-delà de M. Chen, c'est 5 membres du personnel, dont Dr. Urbani, ce médecin italien, qui vont décéder des conséquences de ce virus. Il a lutté pendant 18 jours avec cette maladie, mais il décède le 29 mars 2003. Le Vietnam, c'est le premier endroit où l'épidémie a été contenue, où elle n'a pas pu se propager. Parce que Dr. Urbani, il a réalisé que pour pour contenir cette épidémie, il allait falloir en subir, et il était prêt à le faire, ce sacrifice-là. Et s'il ne l'avait pas fait, elle se serait propagée encore. Ben, c'est un peu de cette manière qu'on doit voir le péché et son caractère destructeur. C'est comme une épidémie, comme un virus qui se transmet. Et il a fallu l'intervention de quelqu'un qui était prêt à mourir, qui était prêt à donner sa vie pour en contenir les effets et permettre à d'autres d'être sauvés, pour permettre à bien d'autres d'être sauvés. C'est par un simple homme que la condamnation s'est étendue à tous les humains. C'est par loin de Dieu, le Christ, que la grâce a été déversée sur beaucoup. Le premier, il a commis une transgression qui entraîne une condamnation méritée. Le deuxième, il a fait un don gratuit, une grâce, quelque chose précisément d'immérité. La désobéissance du premier, elle a entraîné une mort méritée. L'obéissance du second, elle a permis à un grand nombre d'être justifiés dans la justice de Dieu. Et un règne de mort, on a à la place un règne de vie qu'il instaure. Comment est-ce qu'on doit réfléchir à ce texte? Peut-être simplement, pour conclure, de réfléchir à nos erreurs et à toutes les conséquences de nos erreurs. Parfois, on peut avoir le sentiment qu'on est tellement englué dans des erreurs ou dans une personnalité qui est tordue et qui vit jour après jour des conséquences de ce côté tordu. Et pas seulement nos erreurs. On peut penser à toute la complexité d'un mal qui aussi a été commis vis-à-vis de nous. Vous avez peut-être des cicatrices du passé, des choses qui sont pesantes et qui vous ont marqué à vie. Sentiment que ça ne partira pas comme ça. Eh bien, la promesse qui est faite ici, c'est que si par un seul homme, le mal, la mort a régné, par un seul homme aussi, la solution a été trouvée. Et là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Amen.